Voilà, avec ces trois textes, je crois que la question derrière de l'autorité et de l'Église, du rapport entre Église et autorité que j'ai voulu poser. Cette question qui concerne l'Église et l'État, mais qui concerne aussi nos vies en rapport avec l'autorité. Le premier texte, celui de Daniel, se passe à ce moment particulier de l'histoire d'Israël, où, comme chaque finalement État-nation de l'époque, elle avait sa religion, son Dieu, elle est vaincue, elle est en déportation, et d'un coup doit inventer comment vivre la relation à son Dieu, alors qu'elle n'a plus son temple, son roi, sa capitale, son peuple, toute cette unité qui était au cœur de la foi d'Israël. Alors qu'elle n'a même plus ses prêtres, qu'elle ne peut plus faire son culte. Et ce texte de Daniel nous apprend, et devrait être un message quand ça se dit à l'Église, que dans ces cas où l'autorité n'est pas bienveillante, dans ces cas où on nous force à autre chose, la première chose est d'être fidèle à son Dieu. Le récit de Daniel est un récit assez symbolique qui met en avant cette fidélité à la foi quand bien même on est persécuté pour, qui met en avant cette fidélité à la foi quand bien même on nous offre tellement de choses à la place si on acceptait simplement de s'incliner devant les idoles de la religion dominante. Je crois que cette question nous renvoie directement à notre façon d'habiter notre monde. Nous vivons une époque de post-christianisme et je crois que c'est bien ainsi, où effectivement il ne semble pas y avoir de religion dominante, en tout cas on est quand même très apaisé en Occident pour vivre chacun notre foi et on peut en rien se comparer à une situation comme celle de Daniel. Cependant, il est intéressant de penser quelles sont les idoles qu'on nous présente, quelles sont celles devant lesquelles on tend à vouloir que tout le monde s'incline. Et là-dessus, peut-être parmi d'autres, il y aurait beaucoup à citer, mais parfois en exagérant les choses. Il y en a une peut-être que je voudrais révéler, c'est que le dogme principal de notre société aujourd'hui, je le crois, est celui du pluralisme. Nous sommes par la force des choses et nous voulons être une société plurielle dans laquelle de multitudes de personnes se fréquentent et vivent ensemble et nous devons apprendre à vivre ensemble, à nous respecter les uns les autres, ce qui est parfaitement normal et ce qui est bon et sain. Mais dans ce cadre-là, il me semble qu'il y a souvent une pression qui vient un petit peu de l'extérieur et beaucoup de l'intérieur de l'Église aussi pour dire, au fond, c'est tellement plus simple quand tout le monde relativise un peu. Si on accepte de se voir comme une religion parmi d'autres, une vérité parmi les vérités, une voie à Dieu parmi les voies à Dieu, alors chacun trouvera sa place sans problème. Je voudrais nommer cela pour dire et rappeler qu'en tant que chrétiens, nous sommes invités avant tout d'être fidèles à notre foi. Une foi qui, en son cœur, habite un commandement d'amour, un commandement d'aimer son prochain, mais aussi d'aimer son ennemi et de prier pour celui qui nous persécute. Mais ce commandement va précisément envers la personne et non pas envers l'idée, envers la religion ou envers l'idéologie. Et en cela, je crois qu'on l'oublie souvent, ce pluralisme ne doit pas être un relativisme. Nous sommes invités à aimer chacun, chaque personne de ce monde, chaque personne que nous côtoierons, chaque personne avec qui nous sommes appelés à vivre. Mais nous ne sommes pas appelés à être d'accord avec, forcément. Car notre foi dépend avant tout de notre rapport à Dieu, de la foi qu'il nous a donnée, de notre volonté de suivre le Christ. Et c'est là, je crois, le premier fondement de l'Église, vouloir suivre le Christ qu'elle confesse. Ne pas se soumettre aux idoles, rester fidèle à sa foi. C'est là un premier point que je voudrais annoncer pour notre Église. Le deuxième texte, celui de Paul, pourrait presque prendre le contre-pied, tant il commence par « que chacun soit soumis aux autorités établies ». Si nous relevons quelques phrases de ce texte, il est important de préciser à quelle autorité Paul pense, et on s'aperçoit, je trouve, qu'il pense notamment à l'autorité du glaive de la justice à rendre. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée. Elle est en effet au service de Dieu pour faire justice. Et je crois que cela se confirme un peu plus tard lorsque Paul évoque, plus tard dans le texte, nous n'avons pas lu, quelques commandements du Décalogue et qui font tous partie de la deuxième partie du Décalogue. Vous savez, la première partie du Décalogue parle de notre relation à Dieu. Tu n'auras pas d'autre image, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas d'image, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain, tu respecteras le Shabbat. Et puis toute la deuxième partie parle de notre relation au prochain, donc d'une certaine forme de justice, respect du père et de la mère, tu ne tueras point, tu ne feras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne feras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Tout cela, c'est le commandement qui parle de la justice parmi les hommes, que Paul rapporte à ce moment, parce que Paul, dans sa lettre, parle de cette autorité qui assume la justice parmi les hommes. Pour mieux faire comprendre cette idée, je voudrais relater cette réflexion que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Lorsque nous étudions les squelettes des hommes préhistoriques, si nous regardons le plus loin possible, on trouve des traces dans les squelettes qui indiquent que la mort du squelette était probablement une mort violente à 80%. C'est-à-dire, au plus loin de l'humanité, 80% de morts violentes parmi les hommes. Et puis, plus on évolue, et plus ce chiffre descend comme si la violence descendait. Et ce chiffre connaît soudain une chute drastique au moment où apparaît la première structure étatique. Le moment où une structure s'approprie la violence légitime, porte l'épée en quelque sorte, pour rendre elle-même la justice. Ton voisin t'a outré, ce n'est plus à toi de rendre justice, de te faire justice, mais c'est à l'État. Et c'est le moment où la violence dans l'histoire de l'humanité a descendu drastiquement. Je crois qu'on est dans le même cas là dont nous parle Paul. Il y a ce moment, ces autorités qui sont appelées à porter l'épée pour rendre la justice, pour pas que la justice soit à être rendue par soi-même, pour canaliser la violence, s'approprier cette forme de violence illégitime, et à cela, Paul dit, nous devons nous soumettre, car cela apporte la paix parmi les hommes. Ce deuxième texte nous dirait donc que l'Église est invitée à se considérer sous l'autorité aussi de la justice, en tout cas dans ce monde, de la justice, cette justice légale des hommes, parce que c'est elle qui évite la violence. Et peut-être est-ce là une pensée contre la volonté qu'a eu parfois au cours de l'histoire l'Église de s'approprier elle-même le pouvoir de l'épée, de rendre elle-même justice, d'être en quelque sorte dans une théocratie. Et nous savons que ce n'est pas le moment forcément où l'Église a été le plus fidèle à son appel. Ne pas se faire justice soi-même, mais accepter et se soumettre à la justice de l'État. Deuxième point. Troisième point, ce texte entre Jésus et Pierre, qui pourrait aussi s'appeler « Jésus doit-il payer l'impôt ecclésiastique ?» Le didrachme que les collecteurs viennent recueillir, donc didrachme c'est un seul mot, ça veut dire deux drachmes, qui fait donc la moitié d'un statère. C'est un impôt parmi les juifs, bénévole, on l'entend aussi dans la phrase « Votre maître paye-t-il cet impôt ?» que les collecteurs demandent à Pierre et qui récolte d'abord dans la région de Judée autour de Jérusalem, puis vient jusqu'en Galilée, où se trouve Capharnaüm, pour récolter cet impôt parmi le peuple juif. Un impôt qui permet finalement au culte d'Israël de continuer, au temple de vivre, qui permet aussi l'unité d'Israël entre ses différentes provinces et qui permet peut-être d'échapper à l'impôt de l'Empire romain pour les dieux romains. Un impôt important, mais Jésus pose la question effectivement à Pierre en disant, au fond, les rois de la terre, est-ce qu'ils demandent l'impôt à leurs enfants ou aux étrangers? Aux étrangers. Du coup, est-ce que cet impôt qui est censé aller au temple, à Dieu, est-ce qu'il me revient à moi ou pas de le payer? Derrière, on entend bien qu'il y a une question christologique où Jésus à nouveau se révèle comme fils de Dieu, mais c'est le point important de ce texte que je vais relever aujourd'hui pour ne pas causer la chute. Littéralement, pour ne pas scandaliser, Jésus dit « Nous allons le payer ». Et là, vient un miracle, en quelque sorte, c'est Dieu lui-même qui fournit cet impôt, tu jetteras l'hameçon, tu trouveras un poisson et dans sa bouche, il y aura finalement de quoi payer l'impôt pour toi et pour moi. Donc, cette attitude de Jésus, je voudrais la relever parce que si Jésus s'est souvent montré en rupture par rapport au monde, dans un discours de rupture, là je voulais rappeler par exemple quand il annonce qu'il est venu amener l'épée et non la paix, quand il annonce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois et Dieu et l'argent, quand il parle des trésors de ce monde qui sont différents des trésors du ciel, ou de ceux qui cherchent leur récompense déjà ici-bas, ou ceux qui cherchent celle des cieux. On retrouve d'ailleurs tous ces exemples d'intégrité finalement que Daniel montre vis-à-vis du monde de Babylone. Mais au moment où ce geste pourrait causer la chute d'un autre, pourrait être une cause de scandale, Jésus dit au fond, là, j'accepte de payer l'impôt. Peut-être un exemple à retenir pour nos églises en nous rappelant que nous sommes libres. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être libres. Une liberté qui est inscrite au cœur de notre foi, une liberté qui est inscrite au cœur de notre vie, dans notre conscience même, mais que nous ne voulons pas faire de cette liberté une occasion de chute pour les autres. Nous n'avons pas à exhiber cette liberté pour en faire un scandale, peut-être une certaine forme de modestie. Notre liberté d'enfant de Dieu ne doit pas être une occasion de chute pour les autres. Un troisième point. Ces trois points, donc, ne pas se soumettre aux idoles, mais rester avant tout fidèle à sa foi en Jésus-Christ. C'est ça qui doit guider toute chose. La deuxième chose, accepter qu'il y ait un État qui porte l'épée, que ce n'est pas notre rôle et de nous soumettre à cette épée. Et la troisième chose, nous sommes libres dans notre conscience en tant qu'enfants de Dieu, mais cette liberté ne doit pas être une occasion de chute. Je voudrais la transcrire en partageant cette vision de l'Église que je voudrais partager avec vous. Qu'avant tout, dans ce premier point, ne pas se soumettre aux idoles, mais guidé par sa foi, j'entends par là que nous sommes appelés à être aujourd'hui, sans cesse, une Église confessante. Notre rôle dans la société n'est pas de regarder où est-ce qu'on peut être utile à ce monde, parce que si nous cherchons à être utile, le jour où on trouvera quelque chose qui est plus utile que nous, alors l'Église disparaîtra. Je ne crois pas que ce soit le premier appel de l'Église. Nous ne sommes pas appelés à être utiles pour ce monde, nous sommes appelés à être l'Église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nos parents étaient chrétiens, auquel cas l'Église ne serait qu'un club culturel. Nous ne sommes pas chrétiens parce que ça nous fait du bien, auquel cas on serait une Église de spiritualité chrétienne. Nous sommes chrétiens parce qu'on croit en Jésus-Christ. Et c'est en cela que nous formons ensemble l'Église de Jésus-Christ, dans sa déclinaison réformée. Voici, je crois, ce qu'est une église confessante. Elle se définit avant tout par son appel qu'elle reçoit de Dieu et qu'il envoie dans le monde. Mais c'est en premier lieu l'appel à être fidèle à sa foi, à Jésus-Christ, Fils de Dieu Seigneur. Le deuxième point, peut-être effectivement, n'est-ce pas plus une question, c'est celui que nous ne sommes pas appelés à être une théocratie, on n'est pas au-dessus du monde, on n'est pas du monde, mais dans le monde, et l'Église n'a pas à réclamer le privilège de porter l'épée, ou à rendre la justice elle-même. Nous sommes appelés à être une Église qui prend soin du pouvoir hors du siècle, mais pas du pouvoir temporel. Et le troisième point, nous sommes appelés à vivre notre liberté sans provocation. L'Église, dans les différents cantons suisses, dans les différents pays d'Europe, du monde, a connu une adaptation différente, une histoire différente, et vit sous des traditions différentes. Et je crois qu'au fond, nous ne sommes pas appelés à avoir un modèle unique, mais à savoir qu'il y a des traditions issues de l'histoire qui sont bonnes ou mauvaises, mais certaines, à partir du moment qu'elles n'impliquent pas de s'agenouiller devant l'idole, en quelque sorte, de se soumettre à l'idole, nous devons penser à quelle est la place, finalement, de ces traditions. Est-il bon de les remettre en question ou pouvons-nous simplement les assumer? Il y a par exemple cet exemple qui a eu lieu il y a quelques semaines qui est très dur à poser un regard dessus. Je ne voudrais pas le juger parce que derrière, il y a probablement beaucoup de choses. C'est la question dans la terre d'Islam du Ramadan, où il y a eu cet été, durant le Ramadan, notamment en Tunisie, des groupes qui ont publiquement voulu prendre un pique-nique en public au cœur de la ville pour dire leur droit de ne pas suivre le Ramadan. Alors derrière, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il serait très inopportun de poser un jugement dessus, tant il doit y avoir la question de la place de la minorité, des outrages, toutes ces choses qui sont en jeu. Mais que cela soit juste un exemple de nous dire, au-delà de toute histoire, de tout contexte, il me semble que c'est le moment où notre liberté, liberté d'être chrétien, de se savoir soumis à la sainte loi de l'Évangile, ne doit pas être une provocation pour les autres. Et si afficher sa liberté telle une provocation, secouer le drapeau de notre liberté en Christ, cause finalement la colère, cause paradoxalement la violence, alors ce n'est peut-être pas le lieu de notre Église, de faire ça, de l'Église de Jésus-Christ en général. Voici peut-être un exemple qui est facile à percevoir, mais qui pourrait se décliner dans notre pays d'autres façons. Trois points qui nous invitent à être une Église courageuse, qui est habitée avant tout par sa foi et envoyée dans le monde, qui sait quel est ce monde avec ses forces, avec la justice qu'elle peut rendre, avec ses faiblesses et sa tentation de se soumettre aux idoles, et qui sait vivre sa liberté dans sa conscience pour qu'elle soit sans cesse une bonne nouvelle et non pas une occasion de scandale ou de chute. Amen.